Le journal, Pauline Renoir.
Bonjour à tous. Les manifestations en Irak se terminent systématiquement en bain de sang depuis 48 heures. 6 personnes ont été tuées hier à Bagdad et dans le sud du pays, ce qui porte le bilan à 50 morts rien que pour ce week-end. Les protestataires, souvent des jeunes, s'en prennent au QG des partis et aux institutions. Hier, ils ont voulu se rendre dans la zone verte où siège le Parlement et l'ambassade des États-Unis. À Bagdad, Lucille Wasserman.
La colère ne redescend pas à Bagdad. Aux abords de la place Tahrir, des manifestants font face à des dizaines de forces de sécurité. Ils tentent d'accéder à la zone verte où se trouvent les institutions politiques. Comme l'explique Haider, la trentaine, une casquette vissée sur la tête.
On essaie de passer derrière les forces de sécurité pour prendre le contrôle de la zone verte. On veut renverser le gouvernement et demander nos droits légitimes.
Ces protestataires dénoncent la gestion des manifestations. Depuis hier, de nombreux tirs de gaz lacrymogène ou de grenades assourdissantes sont lancés en direction des manifestants. Haider en a été témoin directement ce samedi, dit-il.
Les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes. Pas en direction de nos pieds, mais directement vers nos visages. Si ça touche notre tête, ça nous tue.
Ces grenades ont retenti jusque tard dans la soirée ce samedi à Bagdad. De l'autre côté de la ville, d'immenses blocs de béton ont été réinstallés autour de la zone verte et les rues alentours ont été bloquées à la circulation.
À Bagdad, Lucille Wasserman pour France Culture. Plusieurs médias américains annoncent la mort du chef du groupe État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi. CNN et ABC parlent d'une opération militaire américaine dans le nord-est de la Syrie. Des informations pas encore officialisées par la Maison-Blanche, mais Washington promet une annonce, je les cite, très importante ce matin, 14h, heure française. Des informations recoupées ce matin par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'ONG évoque des tirs d'hélicoptères en Syrie, dans la province d'Idleb, des tirs faisant 9 morts. La Californie continue de se battre contre les flammes. 2 incendies ravagent plusieurs milliers d'hectares au nord et au sud du pays. Le vent et la chaleur compliquent d'ailleurs le travail des pompiers. Près de Los Angeles, le Tick Fire a forcé 40 000 personnes à quitter leur maison. Et au nord de San Francisco, la région viticole de Sonoma est elle aussi ravagée par les flammes, Loïc Piala.
Healdsburg est une petite ville appréciée des touristes au cœur de la région des vins. Samedi à 16h heure locale, ses 11 000 habitants avaient déserté les lieux. Ceux de Windsor, quelques kilomètres au sud, ont fait la même chose, suivant l'ordre d'évacuation tombé dans la matinée. Ne prenez pas cet avertissement à la légère, le danger est réel, a prévenu le maire. Tous devaient quitter leur domicile avant la coupure de courant généralisée annoncée par la compagnie Pacific Gas and Electric. Avant surtout que ne se réveillent les Diablo Winds, ces vents chauds et secs du nord de la Californie. Les météorologues s'attendent à ce que les rafales dépassent les 100 km par heure pendant la nuit. Un épisode venteux potentiellement historique selon eux. Des conditions pareilles rendraient incontrôlables les flammes du Kincaid Fire toutes proches. D'où ces évacuations d'une ampleur rarement, si ce n'est jamais vue dans la région.
Les précisions de Loïc Piala à Los Angeles pour France Culture. Les Chiliens ont passé leur première nuit sans couvre-feu depuis une semaine. Le président Sébastien Piñera dit avoir entendu le message de la rue avant-hier. 1 200 000 personnes avaient manifesté dans la capitale Santiago. Le président prévoit également un remaniement de son gouvernement très bientôt. En Argentine voisine, le peuple est appelé à élire son chef de l'État. Aujourd'hui, le candidat sortant Mauricio Macri va affronter le duo péroniste Fernandez-Kirchner. Une élection en pleine crise économique. Après Emmanuel Macron à la Réunion, c'est au tour d'Édouard Philippe de se rendre en Outre-mer. Le Premier ministre était en Guadeloupe pour clôturer la conférence internationale sur les algues sargasses, ces algues brunes toxiques qui prolifèrent dans les Caraïbes. Il affirme son soutien dans la création d'un fonds de financement pour éradiquer ou bien pour transformer ces algues. Il s'est aussi offert un bain de foule à Pointe-à-Pitre, Laurence Perron.
Un voyage officiel en Outre-mer n'a généralement rien d'une promenade de santé. Le président de la République en a d'ailleurs fait l'expérience rugueuse à La Réunion. Vu les dossiers ici en Guadeloupe, sargasses, chlordécone, eau, colère des personnels de santé, on s'attendait à un Premier ministre tendu. Sur le fond, il est grave.
Ce fléau que constitue l'échouage des sargasses, il faut le regarder en face. Il faut essayer de trouver des solutions.
Sur la forme, un Édouard Philippe en cravate et bras de chemise qui décide soudain d'arpenter le front de mer en saluant les enfants. Des selfies avec des gens en maillot de bain.
Très sympa, on est content de l'avoir rencontré.
Une petite bière dans une paillote, il fait 30 degrés. Lui, qui est d'habitude expert en la matière, n'esquive pas l'interpellation de ce couple de retraités.
Pour moi, le minimum retraite, ça devrait être de 1500 euros. Que vous ayez touché 1 million d'euros ou que vous ayez touché le SMIC, il n'y aurait pas de problème de caisse de retraite à l'heure actuelle. Il n'y aurait pas de problème.
Et ce serait équitable pour tout le monde.
Pas d'esquive, pas de réponse non plus. Le dossier des retraites, même pour un Premier ministre qui marche sur l'eau, ça peut vite se transformer en sable mouvant.
Laurence Poron à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. La scientologie tente de s'emparer du sujet de la psychiatrie aux États-Unis avec des musées qui dénoncent une industrie de la mort et en France avec une association, la Commission des citoyens pour les droits de l'homme. Derrière ce noble titre, la secte organise régulièrement des manifestations devant des hôpitaux psychiatriques. Diane Berger était hier à un rassemblement dans les Yvelines.
Ils sont à peine une dizaine devant l'hôpital Jean-Marie Charcot à Plaisir. Mais il est difficile de les rater avec leur grande banderole et avec leur mégaphone. Coralie Gamet est leur porte-parole.
Nous demandons à l'hôpital des explications sur ce qui se passe dans cet établissement, notamment sur la contention et l'isolement. La contention consiste à attacher des personnes sur des lits avec des sangles. Et l'isolement, c'est juste d'enfermer quelqu'un dans une pièce. Le problème, c'est que cet hôpital ne nous donne aucune information sur ce qui se passe. Est-ce qu'il y aurait des choses à cacher? Et avec le temps qui passe, les témoignages que nous recevons et le silence persistant de la direction, ça nous inquiète et c'est complètement inadmissible parce que les patients psychiatriques restent des êtres humains et la loi et les droits de l'homme doivent être respectés pour ces personnes également.
Mais derrière ce discours sur les droits de l'homme, une stratégie qui inquiète Viviane Covesmas-Fetti, psychiatre à l'école des hautes études en santé publique. Elle voit dans cette émanation de la secte un moyen de récupérer les patients.
Les personnes qui ont des troubles mentaux sont des gens fragiles et souvent des gens isolés d'ailleurs et discriminés. Et dans ces conditions-là, quelqu'un qui vous propose une solution, voire en plus un réseau social, une façon d'être accepté, un nouveau regard, ça peut être quelque chose d'attractif, oui. La scientologie, quand les gens sont en grande fragilité, c'est un peu une forme d'abus de confiance.
La psychiatre rappelle aussi que pour des patients qui souffrent de maladies mentales sévères, le traitement médical est nécessaire pour garder une vie normale.
Diane Berger pour France Culture. On attend de la pluie ce matin sur une bonne partie de la France, en Bretagne, en région parisienne et dans les Hauts-de-France. 11 à 15 degrés dans le nord-ouest, 20 à 24 degrés autour de la Méditerranée.